L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
L'Afrique dans tous ses états reprend, mais oui, comme les écoliers en septembre. Et j'ai le plaisir de retrouver Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, quel plaisir et quel bonheur à l'idée de cette année qui nous attend.
Et toutes les rencontres que vous allez nous amener.
Et toutes les petites escapades en Afrique, hein, parce que là, ouais. Nous on y va vite en Afrique.
Ah, très vite, on aime. Alors, vivre l'Afrique avec vous Marie-Claude, c'est la vivre aujourd'hui avec Françoise Létang-Yamehogo. Bonjour Françoise.
Bonjour Guylaine.
Bienvenue au studio FM+.
Merci beaucoup, c'est un grand plaisir.
Eh bien, Marie-Claude, quelle est donc, qui est donc Françoise ?
Alors Françoise, j'ai eu le plaisir de la rencontrer il y a peu de temps. Et Françoise est une Burkinabé, finalement. Elle vous expliquera quand même depuis longtemps. Et on a partagé énormément de points communs. Et puis voilà. Et en même temps, elle est Montpelliéraine. Et en plus, elle m'a appris récemment qu'elle avait même fait, dans son jeune temps, très jeune temps, elle n'est pas très vieille, hein, mais quand même, elle a quelques années de plus, elle avait fait l'école d'infirmière à Montpellier. Alors vous imaginez.
Que des points communs.
Donc une rencontre montpelliéraine, sous les auspices burkinabé, avec vraiment tout ce piquant, tout ce bonheur qu'on peut avoir de se retrouver dans le partage de l'amour de ce pays, voilà, qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on le connaît et quand on s'y sent bien. Voilà, donc j'ai eu envie, elle va nous quitter, la vilaine, elle repart, elle a la chance, hein, elle repart au pays, retrouver son mari, et j'ai eu la chance de pouvoir la capturer, la capter pour qu'elle vienne aujourd'hui, ce matin, nous raconter ses histoires, son histoire, et nous faire vibrer. Voilà.
Alors comment ça commence l'histoire avec le Burkina, Françoise ?
Alors ça commence d'une manière tout à fait inattendue et presque au hasard parce que dans les années 83, je voulais faire un voyage autour du monde avec une de mes amies et à ce moment-là, c'était l'avènement de Mitterrand qui avait, légiféré sur les sorties des devises extérieures sur le franc à ce moment-là et en disant que on pouvait pas voyager dans d'autres pays que des pays de zone franc. Et donc, ce voyage autour du monde tombait à l'eau parce qu'il y avait une escale en Amérique et une escale en Asie. Et je me suis rabattue, pardonnez-moi, sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone.
Et un choix par défaut qui va se révéler finalement bien.
Voilà,
heureux.
Exactement, mais un choix par défaut. Mais je peux dire que quand même, alors on y reviendra, mais j'ai vécu les cinq premières années de ma vie en Afrique, en fait, avec mes parents, parce que mon père est à ce moment-là juge, on appelait ça juge colonial à l'époque, mon père est antillais, et ma mère était professeure à Bobo-Dioulasso, entre autres, mais ils avaient fait de nombreux pays d'Afrique, le Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, la Haute-Volta aussi, qui est donc le Burkina, et le Togo. Donc ça, c'était avant. C'était
toute
avant,
petite.
Voilà, toute petite jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 5-6 ans. Puisqu'on a été, au moment de l'indépendance, les parents sont partis et donc les enfants ont suivi. Mais c'était pas... prégnant chez moi l'Afrique, c'est-à-dire j'avais pas vraiment un environnement ni des amis africains ni porté sur des voyages en Afrique, c'était vraiment pas j'étais allée en Amérique du Sud, j'étais allée dans d'autres continents mais pas l'Afrique. Donc Mitterrand arrive au pouvoir et avec cette restriction sur le franc français qui n'était pas possible de convertir autre qu'en franc CFA, on part en Afrique. Je pars en Afrique parce que mon ami tombe malade et donc je pars seule en Afrique.
Tout faisait qu'il fallait aller là-bas.
Non mais vraiment, et en plus je pars voir ma maman avant de partir parce que j'étais seule et en lui disant mais voilà, mon ami tombe malade, qu'est-ce que je fais, est-ce que tu penses que je peux aller au Burkina, enfin à Haute-Volta à ce moment-là, avec l'idée pour moi de rester en Haute-Volta, normalement ça devait être une escale à Ouagadougou. Et je devais descendre vers le Bénin, parce qu'on m'avait beaucoup parlé du Bénin et le Bénin m'intéressait beaucoup aussi à, bon, à un autre niveau parce que j'ai de la famille antillaise et donc mon ancêtre, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était donc une esclave noire et j'avais... tout me prêtait, tout me portait à penser qu'elle venait du Bénin. Enfin bon, c'était peut-être complètement un mythe, mais en tout cas, je voulais aller au Bénin à la rencontre de mes roots, de mes racines. Donc c'était ça, l'objectif. Escale à Ouaga et puis partir au Bénin. Et quand je suis allée voir ma maman, qui m'a dit, effectivement, bon, tu pars seule, mais si tu vas en Haute-Volta, il n'y a aucun problème. C'est un peuple extrêmement gentil, des gens... tout à fait charmant,
accueillant,
donc accueillant, extrêmement accueillant, donc tu n'auras aucun problème. Donc, avec la bénédiction de ma maman, je suis partie donc en Haute-Volta, parce que je vais quand même, c'était quand même historiquement là encore la Haute-Volta. Et donc, je suis arrivée le 23 mai 83 en Haute-Volta.
Vous aviez un accueil là-bas, vous saviez déjà où vous alliez aller?
Non, pas du tout.
C'était sac à dos et
sac à dos.
C'est parti.
C'était sac à dos et à ce moment-là, j'ai pris un petit hôtel rapidement et puis après, j'ai rapidement loué une entrée couchée, ce qu'on dit une entrée couchée, un célibatorium, on appelle ça un célibatorium là-bas, dans une cour. Dans une cour, bon, tout à fait
local, avec les gens,
local, oui, traditionnel, local. J'avais une chambre, des toilettes communes, etc. Donc la douche avec le seau, enfin vraiment à la traditionnelle.
Oui, à la traditionnelle.
À la traditionnelle. Et puis après, j'ai donc fait mon voyage au Bénin, au Togo, et je suis revenue par Bobo Dioulasso vers à peu près, disons, fin juillet 83. J'arrivais donc, je revenais encore sur Ouagadougou pour prendre mon avion. J'avais mon avion le 8 août pour rentrer en France. Et dans la soirée du 2 août, quelque chose comme ça, je rencontre dans un café des Européens, des Autrichiens, qui avaient monté un centre de formation technique au Burkina Faso. Ça s'appelle le centre Austro-Burkinabé. Il y a des Burkinabés qui m'écoutent, ils connaissent bien le centre Austro-Burkinabé. Pas mal d'entre eux ont été formés au centre Austro-Burkinabé. Et d'entre ces Européens, il y avait quelques voltaïques, donc quelques amis à eux. Et ils m'invitent à visiter ce centre le lendemain. Donc, c'était donc le 2, dans la nuit du 3, enfin, la journée du 3 août. Donc, je pars visiter ce centre, extrêmement intéressant. Ensuite, on part en moto faire un grand circuit vers Tanguin-Dassouri. Je ne sais pas si peut-être Marie-Claude, ça te dit quelque chose. On part manger du porc au four. Enfin bon, vraiment...
Vraiment, la vraie virée burkinabé.
La totale, quoi. Vraiment, j'étais sur un petit nuage. Bon, et donc, à ce moment-là, c'était vers 19h, je dis, bon, bah, je vais prendre congé de vous, je vais rentrer chez ma famille, enfin, dans ma cour.
Mon entrée couchée.
Dans mon entrée couchée. Et là, ils me disent, mais non, il faut prolonger, on t'invite, etc., etc. Tu vas dîner avec nous et on te raccompagnera. Donc, je dis, ok, pourquoi pas. Et donc, vers 20h, 21h, il y a eu des tirs, puisqu'on était juste en face du camp militaire. En fait, le centre Austro-Burkinabé se situe juste en face du camp militaire. Il y a eu des tirs très, très nourris. Donc, on s'est dit, bon, voilà, il y a quelque chose qui se passe de très, très important. Et en fait, c'était le coup d'État de Thomas Sankara dans la nuit du 4 août. Et donc, je suis restée dormir là-bas. Et voilà, et j'ai donc fait la connaissance plus proche, on va dire, du père de mes enfants, de mon premier mari, à ce moment-là. Donc c'est vraiment grâce à cet événement majeur que j'ai pu vraiment faire la connaissance de mon premier mari, qui a ensuite déterminé beaucoup de choses, puisque j'ai voulu ensuite, parce que tout ce qui se passait dans le pays m'intéressait énormément, évidemment. L'avènement de Thomas Sankara, pour moi, c'était très majeur, parce que, enfin, il y avait, voilà... c'était un discours qui me parlait, c'était un projet qui était exaltant, c'était une liasse populaire. Enfin, les gens étaient heureux.
Une espérance. Une ouverture vers autre chose.
Voilà. Et puis, vraiment, il y avait... Le pays ne ressemblait plus du tout au pays que j'avais connu, parce que les gens, véritablement, étaient... Bon, je suis un peu partisane, il est vrai, parce que d'autres gens n'ont pas eu cette lecture, mais en tout cas, moi, j'ai eu cette lecture-là. Et voilà, donc, ça a conditionné ensuite le fait que j'ai voulu y revenir. Donc, je suis rentrée, parce que l'aéroport était fermé pratiquement jusqu'au 12 août, je crois. Donc, j'ai eu le temps de rencontrer les uns et les autres et de sentir que véritablement, j'avais envie de revenir dans ce pays, parce qu'il se passait des choses très intéressantes à ce moment-là pour moi, tant au niveau personnel, individuel, affectif, qu'au niveau politique, social, etc.
C'est vrai que le 4 août est commémoré encore avec beaucoup, beaucoup de au Burkina Faso. C'est quand même une date encore très importante.
Marie-Claude, après la prise de pouvoir de Blaise Compaoré, le 4 août a été totalement, totalement occulté, enfin totalement, disons... Ignoré. C'est-à-dire qu'on a, vraiment mis
enterré.
Une chape... Enterré, exactement. C'est vraiment le mot. Ça a été enterré, donc ça...
Mais j'en avais entendu parler malgré tout, parce que ça fait 23 ans que je vais là-bas, et ils s'en parlaient.
Hein. Oui, non, mais parce que tu en as entendu parler, parce que tu es dans une sphère commémore ce moment. Pour moi, c'est un moment très important, etc. Donc, alors, et ça revient un peu... alors, on a dévié sur le 5 août, c'est maintenant le 5 août qui est... qui est commémoré. Donc... Voilà l'histoire qui m'a amenée à revenir au Burkina, puisque ça a pris le nom Burkina Faso avec l'avènement de Thomas Sankara, qui a rebaptisé le pays, si ce n'est, je pense, en 86, si ma mémoire est bonne. Et voilà, le pays des hommes intègres.
Voilà. L'histoire dans l'histoire, quoi.
C'est
une
ça.
Histoire dans l'histoire,
c'est
avec
ça,
un grand H. Tout à fait. C'est ça qui est passionnant, enfin, de se relier comme ça dans cette histoire-là. Moi, je trouvais ça extraordinaire, quoi.
Oui.
Hein. Donc, Françoise ne pouvait pas faire autrement que de vivre là-bas, finalement. Tout le lui avait dit, tout l'appelait, quoi.
C'est vrai. C'est bon, quand on parle de destin, de destinée, mais c'est vrai que bon, tout était.
Relié
pour que je reste là-bas. Puis encore, bon, si on continue dans la liste des, dans la liste des choses possibles qui m'ont été rendues possibles dans ce pays, c'est que je suis de formation infirmière et je me suis présentée au lycée français pour savoir s'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un, et juste quelqu'un partait, et on était, je ne sais plus combien sur la liste, 4 ou 5 ou 6 candidatures. Voilà, j'ai été prise au lycée français et j'y suis restée 32 ans. Donc, c'est aussi des signes, parce que je m'étais dit, bon, si je ne trouve pas de travail, j'avais un petit peu des économies, mais enfin, je ne pouvais pas vivre éternellement.
Donc, finalement, votre carrière professionnelle, vous la faites au Burkina.
C'est ça.
Absolument.
C'est ça.
Et vous construisez là-bas une famille.
Oui, c'est ça. Je construis une famille, tout à fait, avec... Donc, le père de mes enfants. Mes enfants, bon, ensuite, on a divorcé avec le père de mes enfants. Mais j'y suis restée. Ça aussi, ça a été, à un moment donné, une question, une grande question quand même. Parce qu'on se dit, voilà, on n'est pas, très sûr de soi, ni de son choix. Je me suis dit, non, franchement, ma vie est totalement là-bas. Parce qu'après, bon, évidemment, j'ai développé des initiatives personnelles. Je suis membre fondatrice d'une association des familles franco-burkinabées. Ça, je t'en avais pas parlé, Marie-Claude, mais voilà, donc, qui a 30 ans d'âge aujourd'hui, 31 ans d'âge. Pareil, basée sur la solidarité, sur l'entraide. Les échanges, parce que à ce moment-là, les couples mixtes et les familles, n'étaient pas si nombreuses. Donc, on avait besoin aussi de se regrouper, d'échanger, de partager, voilà. Et donc, cette association, elle a été vraiment, elle est toujours très importante et très vivace. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais enfin, bon, en tout cas...
Voilà, vous êtes vraiment voilà, investi j'ai fait un choix. Au-delà de votre métier, malgré cette séparation.
J'ai fait
vous avez fait le choix du pays, finalement.
Exactement, exactement, c'est ça.
Et
c'est
tellement ça. Investi Marie-Claude. Qu'actuellement, ouais. Françoise est, il faut le dire.
Oui, alors je suis élue, alors maintenant, de l'autre côté, je suis une élue française. Je suis conseillère consulaire et je représente les Français vivant au Burkina Faso. Donc, la communauté française est à peu près de 3500 Français qui résident au Burkina Faso. Ça, c'est une réforme de Hollande qui a créé donc, les conseillers consulaires. Donc, on est 400, à peu près 445 ou 450 dans le monde entier. Mmh. Et donc, c'est une élection. Donc, ce sont les Français qui votent pour leurs représentants dans chaque pays. Et nous, on est trois élus au Burkina, dont je fais partie. Donc, effectivement, c'est aussi... bon, là, c'est un autre volet. Là, si vous voulez, je représente les Français. Donc, c'est pas la même mission. Mais c'est une mission aussi extrêmement intéressante parce que, évidemment, ça permet de rencontrer les Français expatriés. Et les Français expatriés, c'est loin d'être toujours l'image mirifique qu'on en a et qu'on s'en fait. Oui, ça existe aussi, mais il y a toute une population, par exemple, de binationale, une population binationale qui est en galère aussi, qui a des problèmes économiques, des problèmes sociaux, etc. Donc, on soutient beaucoup d'associations qui viennent aussi en aide à ces personnes-là.
Ouais. Alors, et vos enfants ont-ils dû faire un choix ou est-ce que finalement ils vivent dans un entre-deux ?
Alors, mes enfants n'ont pas fait vraiment un choix. Disons qu'il y a eu une espèce de logique de continuité via les études. C'est-à-dire qu'ils ont fait leurs études, évidemment, primaires, secondaires à Ouagadougou. J'en profite pour dire que c'était d'excellentes études parce que vraiment, le réseau des établissements français à l'étranger, il faut quand même avouer que c'est un réseau exceptionnel.
Je confirme.
Hein, c'est un réseau exceptionnel. Mmh. C'est un des rares pays au monde qui a ce réseau-là. Mmh. Les enfants peuvent faire de la maternelle jusqu'à la terminale avec d'excellents professeurs. Donc, moi, mes enfants sont arrivés en post-bac. Comme n'importe quel lycéen de France, avec les mêmes chances et le même bagage. C'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont tous les deux ensuite choisi de faire des études en France. Donc, ma fille a fait une carrière dans... Maintenant, elle est dans la musique. Elle est directrice, co-directrice d'un label musical. Donc, elle a bien fait... Elle a beaucoup travaillé et bien réussi.
De Music World ?
Alors, de Music World et puis de musique, je crois, plutôt... elle est chercheuse des nouveaux talents, en quelque sorte. Donc, elle a travaillé à Warner. Maintenant, elle a travaillé chez Sony aussi. Maintenant, elle est à Universal et elle a un label qui s'appelle Neuve. J'en profite pour parler de Neuve. Oriana, tu pourras me remercier. donc elle est comme ça, elle est dans cette voie-là. Et mon fils a fait des études à Rennes, des études d'ingénieur à Rennes. Il a fait après un master, un cursus en management à Nantes. Il a fait une école qui s'appelle Audencia. Donc tout ça pour dire que franchement, les études que tous les deux ont fait au Burkina, c'était extra.
Ils sont donc installés en France.
Alors, mon fils est en Afrique du Sud parce qu'il est volontaire international en entreprise. Donc, il représente une entreprise française en Afrique du Sud, mais c'est un contrat de 2 ans. Et après, bon, je ne sais pas trop ce qu'il a envie de faire, mais il a plutôt envie de rester sur le continent africain ou sud-américain. Il n'a pas follement envie de travailler en France. Mais ma fille aussi, elle pense aussi... Voilà, elle sait que c'est une étape actuellement, mais bon, peut-être que ça débouchera sur autre chose.
La nostalgie du pays dans lequel on a vécu jusqu'à 18 ans.
Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on a toujours beaucoup voyagé aussi ensemble. Donc, on a voyagé dans d'autres pays, d'Afrique, etc. Donc...
Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on est en train de dire, parce que C'est intéressant ce qu'on est en train de dire, parce que finalement, il peut y avoir en effet, c'est quand même quelque chose que peuvent vivre les enfants de couples mixtes comme
ça. C'est
ça,
exactement. Hein,
ce que disait Françoise tout à l'heure. Et que dans la mesure où moi, ce que j'entends de Françoise, là, c'est que chez elle, c'est une espèce d'harmonie, comme des choses qui se sont passées naturellement. Et je pense que c'est ce qui a été aussi transmis à ses enfants, c'est-à-dire, oui, après tout, une ouverture.
C'est
actuellement,
ça.
Bon, voilà, une opportunité pour la musique d'être en France, et puis peut-être, et je trouve que ça c'est intéressant, parce qu'en effet ça peut être, sinon peut-être que dans la représentation consulaire que tu as, peut-être que tu peux te rencontrer quelquefois des gens en difficulté comme ça, de choix et tout, alors que là visiblement non, donc tout est possible.
Absolument.
Tout,
oui,
est possible,
c'est vrai.
Pour répondre à Guylaine.
Oui.
Alors Marie-Claude, je, oui, crois qu'il y a un choix musical qui va nous,
oui,
nous transporter là,
oui,
sur le continent africain.
Alors ce
africain.
Choix musical, on le doit à Françoise, mais j'aurais fait le même alors de toute façon. Donc c'est un peu notre chouchou, parce que c'est un,
oui,
beau boulet qui malheureusement, au moment où il commençait à faire une carrière internationale,
absolument,
bien méritée, parce qu'il avait bien galéré avant, un peu à la manière de César Evora, Victor Démé, donc, qui était beau boulet, en fait, qui a vécu à Boubou longtemps. C'est très connu, c'est un morceau qui est très connu, qui s'appelle John Maya. Voilà,
on lance Desmond. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine,
voilà,
à nouveau,
oui,
avec Françoise.
Je veux bien qu'on continue à parler
avec Françoise,
du Burkina avec Françoise.
Et okay, on se revoit donc toutes les trois. Merci.
D'accord.
Marie-Claude, et à la semaine prochaine.
À
merci
la semaine
Françoise.
Prochaine, merci beaucoup.
Dabe sanga la lomino, Baba damwene la la Duya bekene Nana yo Nyongona Yamaya maria lai Ame bilan Te sine lona Antes sin el hombre, antes sin el hombre.